Vous écoutez RTL.
RTL
à la bonne heure.
Stéphane Bern.
Alors, je vous ai présenté toute l'équipe d'À la bonne heure. Vous n'hésitez pas à intervenir à un même Régis quand vous le souhaitez.
Vous êtes bavard.
Mais d'abord, je vous présente notre invité. Il est un ovni dans la littérature, car loin de se regarder le nombril pour se complaire dans l'autofiction la plus déprimante, il appartient au cercle restreint des auteurs qui nous transportent dans un univers onirique, aux frontières du réel et qui nous font nous sentir bien. C'est un peu l'anti-Welbeck, un romancier feel-good, comme on dit en anglais, plein d'allant et de fantaisie, qui aime recueillir des petits morceaux de sa vie et de la nôtre, comme des petits cailloux, de les assembler ensuite, façon puzzle, dans ses romans, lui qui n'imaginait pas faire autre chose dans la vie depuis qu'il a 8 ans. De romans en romans, on peut ainsi radioscoper sa vie et connaître avec exactitude ce qu'il a marqué dans l'année. En l'occurrence, il va nous raconter ce matin comment il a été marqué par la rencontre à RTL avec une journaliste et son chien guide d'aveugle. Alors que son roman Jules, publié chez Albin Michel, est en librairie, il se prépare aussi à faire sa rentrée estivale dans la première radio de France, puisqu'il rejoint Jacques Pradel tous les après-midi de l'été avec Les Aventuriers de l'Impossible, lui qui publie concomitamment. Oui, comme c'est un écrivain, j'ai essayé de mettre des mots.
Vache.
Oui,
il est bien ce mot.
Là,
il
peut, hein. J'ai failli buter sur. Oui, concomitamment.
C'est pas le titre. Hein.
Non, c'est pas le titre. Mais ça veut dire simultané. Hein, ouais. Je vois qu'il y en a qui froncent les sourcils. Un nouveau dictionnaire de l'impossible avec nous ce matin sur RTL, DVC, autrement appelé Didier Van Kovlas.
Ça c'est tout Stéphane. Il utilise un mot à 154 lettres concomitamment pour vous appeler DVC derrière.
Oui, mais il rattrape pas après la salive perdue.
Oui. C'est drôle, on dit toujours... Ce que j'ai vu, en fait, ça nous a surpris parce que sur le tableau des invités, on voit DVC. Oui. Alors, je me dis, mais c'est qui
était DVC?
Heureusement, Marika qui est arrivée, Didier Van Kovlart. Ah bon. Il y a DSK, on l'appelle jamais autrement que DSK maintenant.
Oui, mais c'est
vous, c'est DVC.
Oui, mais DSK, ça sonne mieux quand même.
Pourquoi vous trouvez...
Non, oui, DVC, c'est pas terrible.
Ah, on est d'accord.
Mais DSK aime beaucoup les WC.
Alors, arrêtez. Alors, on accueille trois DVC, trois Didier Van Kovlart pour le prix d'un. Bon, c'est les soldes. Le premier va animer tout l'été avec Jacques Pradel, Les Aventuriers de l'Impossible. C'est du lundi au vendredi, de 14h à 15h. Le deuxième publie le nouveau dictionnaire de l'impossible chez Plon. Hein, c'est alors très proche du premier puisque
aujourd'hui.
Oui c'est exact, ça sort aujourd'hui même.
Oui.
Ah oui, c'est bien. Et puis le troisième, c'est le romancier prix Goncourt 94, on s'en souvient, et avec un nouveau roman, enfin le dernier en date,
Jules, il a un mois,
paru chez Albin Michel. Bon, à part ça, ça va, vous avez des loisirs?
ça va, je survis joyeusement, donc le succès de Jules me fait vraiment très très plaisir. Et puis c'est un livre que je porte depuis très longtemps. J'ai beaucoup fait de brouillons dessus. À 12-13 ans, j'ai eu envie de raconter cette histoire entre une aveugle et son chien. Et...
Pourquoi ? Parce que l'histoire des chiens d'aveugles, ça vous touche depuis que vous avez 12-13 ans.
Oui, parce que j'ai commencé à faire du théâtre amateur dans des pièces destinées à financer les chiens guides.
Oui.
Pour le Lions Club, mon père écrivait des pièces comme ça, et des soirées caritatives, et je faisais les petits rôles dans les pièces, et j'ai découvert cette équipe formidable de l'aveugle et de son chien. Et comme j'avais pas de chien à la maison, je me suis fait copain avec des aveugles pour profiter de leur chien, quoi.
Surtout que c'est les labradors les plus affectueux de la Terre.
Ouais, et puis ce qui me fascinait, c'est que c'est à la fois un chien avec tout ce qu'on aime, mais c'est en même temps c'est le regard de son maître, c'est la prise de décision, c'est la responsabilité, c'est un athlète mental et physique, un chien d'aveugle. Et c'est un entraînement pendant un an et demi de dressage terrible, avec des évaluations tous les mois. Il y a 40% des chiens sélectionnés au départ qui sont réformés, parce qu'ils sont ils sont pas
et
assez
qu'est-ce qu'ils deviennent, les chiens réformés?
Ah bah des chiens normaux, hein, ça va.
Des chiens de compagnie.
Mais il faut une telle concentration.
Sur pédigré, réformé du chien aveugle.
On les envoie en Chine, en fait.
Ah non.
Et puis c'est vrai que les chiens sont diplômés, ont un permis de guider, les aveugles. Et puis ils peuvent être radiés de l'ordre des chiens d'aveugles, comme ça arrive à Jules dans mon roman.
C'est horrible.
Quand tout à coup il a fait quelque chose de.
Mais est-ce que les chiens sont rattachés à Uber Pop? Parce que je vois pas qu'il y ait de problème.
Non, il n'y a pas d'application de ce côté-là.
Enfin, c'est une histoire formidable parce qu'en plus, c'est façon puzzle, comme je le disais, parce qu'il y a des histoires qui vous sont arrivées dans l'année, des gens que vous avez rencontrés, qui vous inspirent. Par exemple, Zibal, C'est un garçon qui a été trouvé dans une poubelle en Syrie. Il a fait une formidable.
D'où son nom, oui.
La poubelle. Donc il y a une maîtresse SM, il y a un passionné du Duc d'Aumale, il y a une magnifique jeune femme.
La maîtresse SM, ça n'est pas arrivé cette année, ça.
Non, c'est depuis longtemps.
Il y a prescription.
Une magnifique jeune femme, donc qui a un chien d'aveugle et qui travaille au standard d'RTL. Mm. Voilà. Et en fait, c'est parce que vous avez croisé devant RTL.
Non. En fait, c'est la vie après qui recopie un peu ce que j'ai imaginé. Ouais. Ça fait longtemps que cette histoire est construite, assemblée. Et puis, j'ai vraiment commencé la rédaction, en effet, l'an dernier, parce que j'attendais un peu. Ce livre était tellement important pour moi que je me trouvais toujours des bonnes raisons d'écrire autre chose. Quoi. Ah oui. Et puis, à la photo de la grille de l'été, je retrouve Sophie Massieu, donc la journaliste non-voyante, avec son chien guide Pongo, qui allait partir en retraite. C'était sa dernière sortie, parce que les chiens guides d'aveugles prennent aussi leur retraite. Et le fait, là, de Sophie Massieu, je ne l'avais pas vue depuis des années. On avait enregistré ensemble, quand j'enregistrais mes livres pour dans Lire dans le noir, pour les non-voyants. Et je me suis dit, bon, ce clin d'œil-là, alors que j'ai prévu que mon héroïne Alice, pour gagner sa vie, était voix de radio, là, voilà, tout à coup, quand je vous dis la réalité, vous envoie des petits signes pour dire, bah, allez, vas-y, mets-toi à écrire. Ouais.
Et ben voilà. Alors, c'est le moment, la réalité, maintenant, c'est très concrète, c'est que je vous invite, avec RTL, à passer un formidable week-end dans l'un des hôtels casinos du groupe Partouche. Alors on offre évidemment les deux nuits, les petits déjeuners, un repas au restaurant du casino et même des jetons pour aller jouer dans ce susdit casino.
Susdit.
Deuxième mot que je note ce matin après concomitamment.
Dans le susdit, vous pourrez
Oui, ça change du 9-3.
Et bien pour cela aussi les pourquoi de l'histoire 2.
Ah oui, très bien. On offre très bien.
On l'offre cette semaine.
Parfait. Eh bien, ce que je vous propose le jeudi, Patrice, c'est une invention. En 1948, deux Américains, Walter Frederick Morrison et Warren Francioni, profitant du tout récent engouement des médias pour les extraterrestres, inventent un objet en plastique qu'ils appellent Flying Saucer, soucoupe volante en français. En 1955, Morrison perfectionne cette invention et crée le plutoplateur. L'invention sera commercialisée sous un autre nom, qui reprend celui d'une vieille maison qui fabriquait autrefois des moules à gâteaux. Vous en verrez beaucoup sur les plages cet été. De quoi s'agit-il ?
Oui, un petit indice, ça va peut-être vous faire mal.
Vous le savez, mais il ne faut pas le dire aux invités, aux auditeurs. Il l'a murmuré.
Pensez à Indian Raoni.
Voilà. 32 10 74 900 code bonheur. Bah oui, comme nous, le bonheur, quoi, en majuscule.
Vous écoutez RTL.
RTL
à la bonne heure.
Stéphane Bern.
Alors, toujours avec Didier von Kobelat pour cette moisson en librairie. Donc, on a parlé de Jules, son nouveau roman publié chez Albin Michel. Et on va parler maintenant du nouveau dictionnaire de l'impossible, cette fois publié chez un autre éditeur, c'est chez Plon. Et puis, le premier, c'était très, très bien vendu.
Oui.
C'était un formidable succès, ce dictionnaire. Vous avez toujours été attiré, il faut bien le dire, par tout ce qui est occulte, surnaturel, les frontières du réel.
Ce qui m'intéresse, c'est le point de rencontre entre, justement, ce qui nous paraît impossible, et puis le regard de la science, le regard des historiens, les regards cartésiens sur des événements qui sont pas forcément là pour nous perturber, nous empêcher de dormir, mais aussi peut-être pour nous apprendre la vraie réalité du monde dans lequel on vit. Le nombre d'inventions qui ont été faites à partir de mystères qu'on commençait à résoudre est impressionnant.
Mais alors, parce que vous portez ça en vous depuis très longtemps, toutes ces, même dans vos romans, il y avait toujours des fées, il y avait toujours.
Non, pas souvent, il y avait une fois, mais.
Non, mais enfin.
Pas une fée magique, mais quelqu'un tout à coup qui a une. Non pas une nature, mais une. un rôle tel qu'elle se comporte comme devraient le faire les fées, quoi.
Alors, j'ai vu qu'il y avait un chien quand même dans votre dictionnaire.
Ah, ouais, beaucoup. C'est-à-dire que tout ce qui est, par exemple, j'ai évidemment beaucoup creusé ma passion pour les chiens d'aveugles et j'ai vraiment essayé de comprendre comment fonctionne un chien d'aveugle. Et puis, j'ai découvert les chiens détecteurs de crise d'épilepsie. Oui. Ah, ça, c'est quelque chose d'hallucinant.
Formidable, oui. C'est-à-dire qu'ils anticipent quand un malade va faire une crise d'épilepsie.
Voilà. Et ça, ça n'existe pas du tout en France. C'est maintenant complètement institutionnalisé aux États-Unis, au Canada, en Angleterre. La première fois qu'on a découvert ça, c'est dans une prison pour femmes dans l'État de Washington, la prison de Perdy, où les détenus forment des chiens d'assistance. Et des chiens sauvés de la fourrière qu'on emmène en prison pour qu'ils reçoivent une formation de chiens d'assistance, qui est quand même une bonne idée pour employer les détenus. Ouais. Et là, une femme, un jour épileptique, vient chercher un chien d'assistance. Elle a une crise. Le chien s'occupe d'elle. D'un coup, elle repart avec et on va découvrir qu'à chaque... Ce chien qui, au début, est pour elle un compagnon formidable, vigilant, grâce auquel elle a à nouveau le courage de sortir malgré ses 30 crises d'épilepsie par jour. Un jour, le chien se retourne contre elle dans la rue, aboie, la force à rentrer dans une salle et à s'asseoir, et elle a une crise 5 minutes plus tard. À partir de là, il va prévenir chacune de ses crises. Et la directrice de l'Institut de recherche sur l'épilepsie aux États-Unis va du coup lancer un programme de dépistage, de recherche de ces chiens, ayant en fait 1 chien sur 10 qui, de façon innée, perçoit ces crises. Alors, comment le fait-il ? Vous savez qu'il y a des chiens qui détectent des tumeurs cancéreuses avant qu'elles soient diagnostiquées. Ça, c'est par le flair. Ça, c'est la médecine même s'en sert comme prédiagnostic dans certains services.
Ils disent quoi, les chiens, dans ce cas-là ?
Il a une manière de se poser tout de suite, d'aboyer. C'est pas par le flair, vraiment quelque chose qui...
S'il aboie 3 fois de suite, c'est qu'on est foutu.
on sait que c'est un problème d'odorat qui est 70 fois plus développé que le nôtre. Pour l'épilepsie, ce serait apparemment plutôt un phénomène électrique qui précéderait la crise dans le cerveau du patient et que le chien capterait. Et donc là, en France, comme je suis le parrain de la Fondation Recherche sur l'épilepsie, on est en train de mettre sur pied justement ce qui existe aux États-Unis. Il y a 500 000 épileptiques en France et ça coûte des milliards à la sécurité sociale.
Donc ça serait une formidable solution que de développer ce programme.
Oui, parce que déjà la présence du chien empêche l'angoisse qui favorise les crises.
On dit que les animaux ont tendance comme ça à calmer nos
angoisses. Ah oui, de toute façon. Mais quand, en plus, et là, on a suffisamment de recul aujourd'hui, depuis 1987, pour savoir que ça existe, et qu'en plus, par mimétisme, les chiens qui ont cette sensibilité-là sont imités par d'autres chiens qu'on met à côté et vont avoir le même comportement face aux épileptiques en annonçant leur crise et en les aidant justement à ne pas se blesser en tombant, en les forçant à s'asseoir.
Ce qui est plus gênant, c'est quand vous avez des chiens épileptiques.
Les bulldogs, ils
battent. Ah oui, mais il y a ça aussi. On forme des êtres humains pour détecter les crises des chiens. Donc voilà, si vous voulez, tous ces phénomènes qui paraissent incroyables.
Mais ils sont rejoints par la science.
Voilà, et puis on a une application humaine, ça qui m'intéresse, on est dans l'humain toujours.
Vous écoutez RTL.